Madame Tallien par Humbert de Saint-Amand. Il y a peu de destinées aussi pleines de contrastes et de péripéties que celle de Madame Tallien. Fille d'un négociant de Bayonne, qui devint à Madrid banquier, comte et ministre, mariée trois fois à un marquis de la cour de France, un conventionnel, un grand seigneur belge, elle a traversé les conditions les plus différentes, connu tous les succès de la femme brillante et adulée, ressentit toutes les angoisses d'une société en révolution avant de se réfugier dans le recueillement d'une retraite précoce. Jeune fille, elle charmait les salons parisiens pendant les derniers jours de la monarchie. Marquise de Fontenay, on la vit réunir autour d'elle ce que la société française avait de plus élégant. Devenue la femme d'un régicide, elle parlait dans les clubs et apparaissait à Bordeaux comme une sorte de déesse de la liberté. Après la chute de Robespierre, elle donna le signal de la renaissance des plaisirs et du luxe. Sous le Directoire, elle fut l'idole des merveilleux et des incroyables. Puis, après les jours d'orage, de lutte et de triomphe, une transformation complète s'accomplit en elle, et sous les traits de Madame la Princesse de Chimay, on ne vit plus, au lieu de la citoyenne Tallien, qu'une personne attristée qu'inquiétait le souvenir de son ancien éclat. Peu de femmes furent aussi célèbres, et pourtant, il n'est permis de lui accorder dans l'histoire qu'une place épisodique. N'est-ce pas aller trop loin que de vouloir, comme on a essayé de le faire, dans un livre d'ailleurs intéressant, lui élever un autel, débiter en son honneur une sorte de litanie de la Vierge, la nommer dévotement Notre-Dame de Fontenay, Notre-Dame de Thermidor, Notre-Dame de Chimay? D'une femme charmante, mais qui n'a pas droit à un culte, on a prétendu faire un être providentiel, une envoyée de la justice céleste, une sainte du calendrier républicain. Certes, nous admirons dans Madame Tallien la grâce, la bonté, l'attrait irrésistible, mais devant cette figure, si agréable qu'elle puisse être, nous demandons la permission de ne pas nous agenouiller. Placée sous son jour véritable, l'héroïne du neuf Thermidor est encore séduisante et, pour bien faire comprendre le charme qu'elle exerça sur ses contemporains, on n'a besoin ni de lui attribuer plus d'importance historique qu'elle n'en a, ni de la transformer en déesse, elle qui fut essentiellement femme. Thérésia Cavarrus naquit à Saragosse en 1775. Son père était un Français de Bayonne établi en Espagne. Après avoir dirigé une fabrique près de Madrid, il s'occupa des finances espagnoles et proposa une émission de bons royaux qui eut un véritable succès. Placé par le roi Charles III à la tête d'une banque d'État désignée sous le nom de Banque de Saint-Charles, il fit instituer une compagnie pour le commerce des Philippines. Mademoiselle Thérésia Cavarrus passa son enfance tantôt à Madrid, tantôt dans le domaine de Carabanchel, qui appartient maintenant à Madame la Comtesse de Monteiro. Elle vint à Paris pour y terminer son éducation et fut confiée aux soins d'un ami de son père, Monsieur de Boisgeloux. Dès son apparition dans la société parisienne, elle fit admirer de tous sa grâce et sa beauté. Un homme, beaucoup plus âgé qu'elle, mais bien placé par sa fortune, le marquis de Fontenay, ancien conseiller au Parlement de Bordeaux, la demanda en mariage et fut agréée. Elle n'avait alors que 16 ans. Les fêtes du château de Fontenay ne tardèrent pas à devenir célèbres. La jeune et séduisante marquise commençait avec éclat sa vie de femme à la mode. C'était l'âge d'or de la Révolution, une heure singulièrement animée et brillante dans l'histoire des salons français. Les beaux songes devaient avoir un terrible réveil. Vers la fin de 1793, Madame de Fontenay voulut chercher avec son mari un refuge en Espagne, mais au moment où ils allaient s'embarquer, ils furent arrêtés comme suspects et emprisonnés à Bordeaux. Cette ville était alors sous le joug de Tallien, qui depuis le mois d'octobre 1793 y avait établi le régime de la terreur. Il écrivait à la Convention « Le désarmement s'exécute avec un zèle incroyable. Il donnera des armes superbes et en grande quantité à nos chers sans-culottes. Il y a des fusils garnis en or. L'or ira à la monnaie, les fusils aux volontaires et les fédéralistes à la guillotine. » Le jeune proconsul, il n'était âgé que de 24 ans, avait installé l'échafaud sous les fenêtres de son hôtel. Fils d'un maître d'hôtel du marquis de Bercy, il était devenu député de Versailles après avoir été successivement prote d'imprimerie dans les bureaux du Moniteur, secrétaire de M. Alexandre de Lamette, rédacteur du journal des Sans-Culottes et de l'Ami des Citoyens, membre et greffier de la Commune. Il s'était fait remarquer dans la journée du 10 août et surtout lors des massacres de septembre. Il avait entrepris à la Tribune l'apologie de ces meurtres organisés et il se plaisait à répéter que les arbres de la liberté avaient besoin d'être arrosés de sang. Pendant le procès de Louis XVI, il avait trouvé le moyen d'indisposer par la violence de son langage la Convention elle-même. Elle venait de décréter la libre communication du roi et de sa famille. « Vous aurez beau l'ordonner, s'écriait Tallien à la Tribune, si la Commune ne le veut point, cela ne sera pas. » C'est encore lui qui, après avoir voté la mort de Louis XVI, demandait avec insistance, sous prétexte de ne pas prolonger les angoisses du condamné, que l'exécution eut lieu le jour même. Plus bruyant qu'éloquent, âme versatile, sous des dehors terribles, Tallien ne se distinguait par aucun talent des autres députés jacobins. Tel était l'homme à qui la prisonnière de Bordeaux apparut comme l'image de la volupté. C'était une de ces femmes, a dit M. de Lamartine, dont les charmes sont des puissances et dont la nature se sert, comme de Cléopâtre ou de Théodora, pour asservir ceux qui asservissent le monde et pour tyranniser l'âme des tyrans. Arracher cette beauté merveilleuse d'abord à son mari, ensuite à la prison, contraindre le marquis de Fontenay à s'enfuir en Espagne et faire de la marquise, de la célèbre aristocrate, l'ornement des victoires républicaines, ce fut le projet que réalisa le fougueux proconsul devant qui tout tremblait. Pour Madame de Fontenay, point d'autre alternative que Tallien ou la mort. Elle préféra Tallien. Obéit-elle à un entraînement des sens ou du cœur? Ne céda-t-elle au contraire que pour échapper à l'échafaud? Quand on traverse la tempête, a-t-elle écrit plus tard, on ne choisit pas toujours sa planche de salut. Cette réflexion est significative. Au surplus, on voit la marquise se transformer avec une facilité singulière. Un changement complet s'opère comme par magie dans les manières, le langage, le costume de la grande dame, devenue tout à coup l'inspiratrice d'un parvenu de la terreur. Les républicains bordelais l'applaudissaient avec enthousiasme dans son nouveau rôle. Vêtue en amazone, la tête couverte d'un chapeau à panache tricolore, elle débitait le décadie à l'église des Récollets des homélies patriotiques. Tantôt elle se promenait dans de splendides équipages, en se drapant avec grâce dans les plis de sa clamine grecque, tantôt elle paraissait debout sur un char, éblouissante de jeunesse, une pique à la main, le bonnet rouge sur la tête. Il faut du reste lui rendre cette justice, qu'elle exerça son influence au profit des idées d'humanité et qu'elle eut le bonheur de tirer des mains des bourreaux un assez grand nombre d'accusés. Ces velléités de modération, signalées à Robespierre, devaient éveiller ses défiances. Tallien fut rappelé à Paris, où Thérésia Cabarrus ne tarda pas à le suivre. On le laissa présider à la Convention pendant le mois de mars 1794, lors du procès de Danton et de Hébert. Mais sa perte était déjà résolue dans l'esprit de Robespierre. L'orage commença par atteindre Thérésia Cabarrus. Arrêtée le 22 mai 1794, elle était jetée dans la prison de la Force. Mise d'abord au secret, elle fut ensuite placée dans la même chambre que 8 autres femmes de tous les rangs. À ces moments affreux, elle montra de la présence d'esprit, du courage, de la gaieté même. L'Athénienne devenait spartiate, et par son énergie fortifiait l'âme de ses compagnes. Ces exemples de fermeté n'étaient pas rares alors. L'atmosphère de la Révolution donnait une sorte de fièvre qui faisait braver tous les périls, et le mépris de la mort se respirait dans l'air. Grâce à des intelligences avec le geôlier, la prisonnière trouva le moyen de faire parvenir à Tallien des billets et de recevoir les réponses. Mais Tallien avait inutilement essayé de la sauver, le moment fatal approchait. Le matin du 7 Thermidor, le geôlier dit à la citoyenne Cabarrus qu'elle n'avait pas à prendre la peine de faire son lit pour le soir. Ce fut alors qu'elle écrivit à Tallien cette lettre justement célèbre. L'administrateur de la police sort d'ici. Il est venu m'annoncer que demain je monterai au tribunal, c'est-à-dire sur l'échafaud. Cela ressemble bien peu au rêve que j'ai fait cette nuit. Robespierre n'existait plus et les prisons étaient ouvertes. mais grâce à votre insigne lâcheté, il ne se trouvera bientôt plus personne en France pour le réaliser. Sans doute, ce laconique billet augmenta l'énergie de Tallien et lui donna de l'audace pour la lutte suprême. Il comprit que le seul moyen de sauver la femme qu'il aimait et de se sauver lui-même était de renverser Robespierre. Qui ne se rappelle les détails de la mémorable séance du 9 Thermidor, la plus dramatique de toutes celles de la Convention? Les députés, debout dès le matin, rendus à l'Assemblée avant l'heure ordinaire et parcourant les couloirs en tumulte. Tallien, qui à l'une des portes de la salle encourage ses collègues et s'écrie, comme Saint-Just se dirige vers la tribune, « C'est le moment, entrons !» L'anxiété de tant d'hommes qui vont jouer leur tête, l'émotion des spectateurs de ce grand combat, le silence précurseur de l'orage, puis le discours menaçant de Saint-Just, la réplique de Tallien, l'hésitation des députés, les gradations de leur audace, leurs applaudissements d'abord timides, un moment après enthousiaste, lorsque Tallien s'écrie « Je demande que le voile soit déchiré !» Lorsqu'au milieu des frémissements de colère et de vengeance, il prononce ces paroles qui tuent Robespierre « J'ai vu se former l'armée du nouveau Cromwell, et je me suis armé d'un poignard pour lui percer le sein si la Convention n'avait pas le courage de le décréter d'accusation. » Les imprécations retentissaient de toutes parts. « Ah, qu'un tyran est dur à abattre !» s'écriait Fréron. Enfin, le décret de mise en accusation était rendu contre les deux Robespierre, Couthon, Saint-Just, Lebasse. Ces hommes inspiraient encore une telle terreur que l'huissier de la chambre n'osait pas se présenter pour les traduire à la barre. Le cri « à la barre » devint bientôt général. Les cinq accusés finirent par y descendre. Malheureusement, les hommes de Thermidor n'étaient pas dignes de protester au nom de la conscience du genre humain. Ce qu'ils avaient reproché à Robespierre, c'était sa dictature bien plus tôt que ses crimes. Les vainqueurs ne valaient guère mieux que les vaincus. Il n'y avait entre eux que la différence du succès. Tallien, dont le nom était inscrit le troisième sur la liste des proscriptions qui devaient épurer la Convention en la décimant, apparaissait, non pas comme un vengeur de la justice et de l'humanité, mais comme un homme qui avait su défendre sa tête. Sans aller aussi loin que le mémorial de Sainte-Hélène, où il est dit « C'était des gens plus affreux et plus sanguinaires que Robespierre qui le firent périr. Ils ont tout jeté sur lui. » On peut attester avec M. de Barante que cette clôture du règne de la terreur lui appartenait encore. Le 10 Thermidor, 70 membres de la commune étaient exécutés en masse sans plus de formalité. Le même jour, Barère annonçait à la Convention que la force du gouvernement révolutionnaire allait être centuplée par la chute du tyran. Et il demandait le maintien de toutes les lois draconiennes, même du tribunal où figurait Fouquier-Tinville. Les Thermidoriens furent entraînés toutefois dans la voie de la modération par leurs alliés de la plaine, et plus encore par l'opinion publique, révoltée de tant de supplices. Un grand nombre de détenus ne furent pas élargis, mais beaucoup d'autres sortirent de prison. Tallien faisait entendre des paroles de clémence, tout en conservant encore le langage révolutionnaire. « Qu'on dénonce les individus élargis mal à propos, » disait-il à la tribune le 26 Thermidor, « et ils seront réincarcérés. Pour moi, je fais ici un aveu sincère. J'aime mieux voir aujourd'hui en liberté 20 aristocrates que l'on reprendra demain que de voir un patriote rester dans les fers. Et quoi ? La République, avec ses 1 200 000 citoyens armés, aurait peur de quelques aristocrates ? Non, elle est trop grande. Elle saura partout découvrir et frapper ses ennemis. » Thérésia Cabarrus sortit de prison le 12 Thermidor, le 30 juillet 1794. Elle y était restée 2 mois et 8 jours. Ce fut alors qu'elle épousa Tallien et qu'elle ouvrit son célèbre salon. Tallien était à ce moment un des hommes les plus en vue de Paris, et sa femme rêva un instant d'en faire le réparateur des maux causés par la Révolution. Ni le mari ni la femme n'étaient à la hauteur d'un tel rôle. Mais ce qui donne à Madame Tallien un charme sympathique, c'est qu'elle essaya de faire renaître l'urbanité française. Pareil tâche semblait impossible. Jamais il n'y eut plus de sujet de division, de querelle, de rancune. Dès qu'on parlait de politique, on criait en perdant la voix. Les arts étaient proscrits. La richesse n'osait pas se montrer. On commençait cependant à revoir quelques nobles qui n'avaient pas quitté la France, des fournisseurs qui ne craignaient plus les rigueurs du comité de salut public. Les théâtres étaient encore fermés et les acteurs de la Comédie-Française en prison. Mais il y avait des concerts à Feydeau et le chanteur Gara s'y faisait applaudir à outrance. On aura pu croire que la société, purifiée par le malheur, allait se régénérer. Il n'en fut pas ainsi. Ce qu'on vit se manifester à Paris au sortir de tant d'angoisses et de souffrances. Ce fut une soif immodérée de distraction et d'amusement, une rage de regagner le temps perdu pour le plaisir. Comme si elle ne voulait réfléchir ni sur un passé trop horrible, ni sur un avenir trop incertain, la France cherchait avant tout l'oubli, l'étourdissement. Le caractère français tournait en plaisanterie même la douleur et la vengeance. L'ancien cimetière de Saint-Sulpice s'était transformé en bal public, et sur la porte sculptée, au-dessous de l'inscription latine « As ultra metas beatam spem expectantes requiescund », on lisait l'enseigne « Bal des Zéphyrs ». Des modes nouvelles apparaissaient. Les femmes, renonçant à la poudre et au panier, portaient des clamines grecques, des bandelettes autour des cheveux, des sandales. Les hommes avaient des collets d'habits verts ou noirs suivant l'usage des chouans et se mettaient un crêpe au bras comme parents des victimes du tribunal révolutionnaire. Les muscadins avec leurs cannes plombées poursuivaient dans les sections, dans les clubs, au palais royal, aux Tuileries, les débris du jacobinisme et ils acclamaient le soir les chanteurs entonnant l'air du réveil du peuple, ce chant de triomphe de Thermidor. Ce fut l'époque de la grande vogue de Madame Tallien. Elle habitait alors sa jolie chaumière du cours La Reine. C'était au bout de l'allée des Veuves, en face de la Seine, une petite maison cachée par un massif de peupliers et de lilas, recouverte de chaumes, mais peinte à l'huile comme un décor et entourée de fleurs. Les jeunes élégantes étaient vêtues de draperies grecques, de tissus diaphanes, de costumes de nymphes. À la religion chrétienne, que les philosophes de l'époque croyaient avoir détruite, succédaient les mœurs du paganisme. Les étranges périclès de la Révolution voulaient avoir leurs Aspasies. Au premier rang brillait l'héroïne du neuf Thermidor. Elle avait ce goût de plaire, ce désir de rendre service, cette égalité d'humeur, ce charme instinctif qui caractérise les natures aimables. Elle mettait son honneur à rapprocher dans son salon les types les plus opposés, le terroriste et le muscadin, le jacobin et l'émigré. Nous la représentons facilement avec ses beaux cheveux noirs, son œil doux et brillant, sa physionomie mobile et séduisante, ayant pour chacun des paroles d'apaisement et de conciliation, amenant par ses enchantements des ennemis mortels à se serrer la main. Il fallut toute sa grâce pour opérer de pareils prodiges. Encore n'y réussit-elle pas toujours. Plus d'une fois, les haines à peine assoupies éclatèrent malgré ses efforts, et de tristes échecs, d'amers outrages même lui firent cruellement expier ses triomphes. Tandis qu'on travaillait à ramener la sociabilité, à ressusciter le goût du luxe et de l'élégance, bien des causes de souffrance et de malaise troublaient cette société si profondément bouleversée. Le papier-monnaie était réduit presque au millième de sa valeur nominale. La famine sévissait à Paris. Les portes des boulangers et des bouchers étaient assiégées jour et nuit par des femmes qui poussaient des cris de détresse et de fureur. Les fêtes de Madame Tallien formaient un contraste choquant avec ce sombre tableau. On l'accusa de prolonger les maux du peuple, on la représenta comme la protectrice des accapareurs et des aristocrates. Tallien se crut obligé de la défendre publiquement. « On a parlé de la fille Cavarus, » dit-il à la tribune en janvier 1795. « Eh bien, je le déclare au milieu de mes collègues, au milieu du peuple qui m'entend, cette femme est mon épouse. » Je l'ai connue à Bordeaux il y a 18 mois. Ses malheurs, ses vertus, me la firent chérir. Arrivée à Paris dans les temps d'oppression, elle fut persécutée et jetée dans une prison. Un émissaire du tyran lui fut envoyé et lui dit « Écrivez que vous avez connu Tallien comme un mauvais citoyen. Alors on vous donnera la liberté et un passeport pour aller en pays étranger. » Elle repoussa ce vil moyen et ne sortit de prison que le 12 Thermidor. « Voilà, citoyen, voilà celle qui est mon épouse. » Pendant les 15 mois qui s'écoulèrent entre le 9 Thermidor et la fin de la Convention, du 27 juillet 1794 au 26 octobre 1795, Tallien ne fut pas sans exercer, comme nous l'avons dit, une certaine influence. Le 9 septembre 1794, on tira sur lui un coup de pistolet à bout portant et il fut blessé à l'épaule. Les uns attribuaient cette tentative d'assassinat aux Jacobins, les autres aux royalistes. Il était devenu suspect aux deux parties. On l'accusait de flotter indécis entre la Terreur blanche et la Terreur rouge, et tandis que les républicains le désignaient comme le complice des compagnies de Jéhu, les royalistes voyaient toujours en lui le proconsul de Bordeaux. Un jour qu'il venait de critiquer à la tribune les actes de Cambon, en octobre 1794, le financier de la Convention lui fit cette foudroyante réplique « Ah, tu m'attaques. Tu veux jeter des nuages sur ma probité. Eh bien, je vais te prouver que tu es un voleur et un assassin. Tu n'as pas rendu tes comptes de secrétaire de la Commune, et j'en ai la preuve au comité des finances. Tu as ordonné une dépense de 1 500 000 francs pour un objet qui te couvrira de honte. Tu n'as pas rendu tes comptes pour ta mission à Bordeaux. Tu resteras jamais suspect de complicité dans les crimes de septembre, et je vais te prouver, par tes propres paroles, cette complicité qui devrait te condamner à jamais au silence. » Tallien balbutia quelques mots et dit qu'il ne répondait pas à ce qui lui était personnel. Il comprenait lui-même combien sa position était fausse et il avait donné dès le mois de septembre 1795 sa démission de membre du comité de salut public. Après des hésitations qui convenaient à sa nature violente mais versatile, il abandonna ses alliés de la plaine et se rallia au reste de la montagne. Au moment de l'expédition de Quiberon en juillet 1795, il disait qu'on devrait réveiller la terreur chez les royalistes, si l'on ne voulait point que la contre-révolution fût faite constitutionnellement avant 3 mois. Le général Hoche venait de prendre les émigrés les armes à la main. Aucune capitulation n'avait eu lieu, mais des grenadiers avaient dit « Rendez-vous, on ne vous fera rien ». Et Hoche se demandait s'il avait le droit de faire exécuter les prisonniers. Il en référa au comité de salut public. Tallien, jaloux de donner un gage aux révolutionnaires ardents, se fit envoyer à Quiberon en qualité de commissaire, et par ses ordres, les 711 émigrés qui s'étaient rendus furent fusillés. Madame Tallien tenait la plus grande place dans les fêtes que donna son mari en revenant de Quiberon. La Convention célébrait avec pompe l'anniversaire du 9 Thermidor. Les représentants siégeaient en costume. Des chœurs chantaient des hymnes de chénier. Tallien fut le héros du jour. Il déclama un rapport emphatique. L'océan, disait-il, a tressailli à l'aspect de nos braves, armés par la vengeance, poursuivant au sein des flots qui les ont rejetés sous le glaive de la loi ce vil ramas des complices, des stipendiers de Pitt. Ils ont osé remettre les pieds sur la terre natale. La terre natale les a dévorés. Le soir, il eut un banquet chez Tallien. Les députés marquants de tous les partis y assistèrent. Les montagnards s'assirent à côté des anciens Girondins. L'Anjouinet porta un toast au courageux représentant qui avait abattu Robespierre. Tallien, aux députés victimes de la terreur. Le repas faillit se terminer par une dispute générale. La conversation s'engagea sur la politique, et malgré toute sa présence d'esprit, Madame Tallien vit le moment où l'altercation allait dégénérer en violence. Alors elle se leva et porta ce toast dont M. Ponsard paraissait être souvenu dans les derniers vers de son lion amoureux, à l'oubli des erreurs, au pardon des injures, à la réconciliation de tous les Français. Le rôle de Tallien sous le Directoire fut très effacé. Nommé membre de l'Assemblée des 500, il essayait en vain d'y prendre une grande place. Ce n'était plus lui, c'était Barras qui occupait l'attention. Madame Tallien, qui s'empressa d'accourir aux brillantes fêtes du Directeur, en fut une des merveilles. Elle apportait dans les salons du Luxembourg les mêmes grâces qui avaient fait son triomphe à la maison du cours La Reine, et elle y retrouvait cette société mélangée du Directoire qui l'enivrait d'hommage. Elle rencontrait de jeunes généraux dont l'élévation s'était faite en 2 ans, des fournisseurs qui s'étaient scandaleusement enrichis par les spéculations et les rapines, des émigrés qui ambitionnaient de se rattacher au nouveau pouvoir, des femmes coiffées et habillées à la grecque, suivant les modes de l'an 400 avant Jésus-Christ, tout en minaudant à la manière de 1798, la plus mauvaise de toutes, des jeunes gens, présomptueux plus que la jeunesse ne l'est d'ordinaire, ignorants, parce que depuis 6 ou 7 ans l'éducation était interrompue. il est difficile de se faire une juste idée de la confusion bizarre qui régnait dans ce milieu. Toutes les fortunes étaient déplacées, toutes les convenances bannies. Le bouleversement quotidien des situations ressemblait à une loterie toujours ouverte. On eût dit que les temps de la rue Quincampoix étaient revenus. On agiotait sur tout, même sur le divorce. Le mariage, qui, suivant l'expression du projet de code civil, n'était considéré que comme la nature en action, était dépouillé de sa dignité et devenu l'objet d'une publique dérision. Quand le directoire faisait célébrer la fête des époux dans l'ancienne église Saint-Eustache, ornée de rameaux et de guirlandes, cette cérémonie ridicule excitait les lazzis des femmes de la halle. Ce n'était pas avec une irréprochable simplicité que Madame Tallien aurait pu être l'idole d'une pareille époque. Au reste, son étoile commençait à pâlir. De glorieux échos arrivaient de la frontière, et le bruit de la victoire dominait les conversations plus ou moins futiles de tous les salons dorés. L'attention se détournait donc de Madame Tallien. Elle avait d'ailleurs une rivale de beauté dans Madame Récamier et Madame de Staël, revenue à Paris depuis le mois d'août 1795 avec son mari, ambassadeur de Suède en France, attirée chez elle par la supériorité et le merveilleux éclat de son esprit les diplomates, les hommes de lettres, les membres de l'aristocratie française et étrangère, tandis que les réunions de Madame Tallien devenaient chaque jour moins suivies. Nous trouvons dans les mémoires de la duchesse d'Abrantès une anecdote qui peint bien les retours de la popularité. Junot était venu apporter les drapeaux d'Italie au directoire. Il fut reçu en grande pompe. En sortant, il offrit son bras à Madame Bonaparte, qui, étant la femme de son général, avait droit au premier pas, surtout dans cette solennelle journée. Il donna l'autre bras à Madame Tallien et descendit avec elle l'escalier du Luxembourg. « Vive la citoyenne Bonaparte !» s'écria le peuple. « C'est bien Notre-Dame des Victoires, celle-là, » disait une femme de la halle. « Oui, » dit une autre, « tu as raison. » Mais regarde à l'autre bras de l'officier, c'est Notre-Dame de Septembre. Le mot était affreux, et il était injuste. Tallien, vieilli dès sa jeunesse et se survivant à lui-même, éprouvait en même temps le dégoût, la lassitude qui succède aux grandes crises. Cet homme ardent, né pour une époque de rage et de lutte, ce type de révolutionnaire dont Barras avait dit « il y aurait 500 conspirations que Tallien serait de toutes », se trouvait dépaysé lorsque l'émeute ne grondait plus. L'ancien proconsul de Bordeaux n'était pas fait pour jouer le rôle souvent ingrat de mari d'une femme à la mode. Ne pouvant suffire aux exigences luxueuses de sa trop brillante compagne, déçu dans son ambition, mal dans ses affaires, craignant toujours d'être déporté comme ceux de ses anciens amis qui respiraient l'air meurtrier de Cayenne, il voulut s'éloigner de la France et obtint du général Bonaparte la faveur de le suivre pendant l'expédition d'Égypte. Il avait contribué au premier succès du futur vainqueur d'Austerlitz en le recommandant à Barras avant la journée de Vendémiaire. Ouvrard, le célèbre fournisseur, raconte qu'un arrêté du comité de salut public de Fructidor en Troyes, ayant accordé aux officiers en activité du drapeau rabis, redingote, gilet et culotte d'uniforme, Bonaparte, alors chef de brigade d'artillerie à la suite, réclama le bénéfice du décret, mais inutilement, et qu'il fallut l'intervention de la toute-puissante Madame Tallien pour que l'homme qui devait bientôt porter le manteau des Césars fût habillé aux frais de la République. Ce fut chez Madame Tallien qu'il fit la connaissance de Joséphine de Beauharnais, et quand il l'épousa, Paul Barras, membre du directoire exécutif, domicilié au Palais du Luxembourg, et Jean-Lambert Tallien, membre du corps législatif, domicilié à Chaillot, furent les témoins de ce mariage. Joséphine avait d'ailleurs de grandes obligations à Madame Tallien. Emprisonnée en même temps que son mari, le général de Beauharnais, elle ne dut son salut qu'à la fièvre qui s'empara d'elle lorsqu'elle apprit la condamnation et le supplice du général. Sa comparution devant le tribunal révolutionnaire se trouva ainsi retardée de quelques jours. Le 9 Thermidor arriva. Elle fut sauvée. Thérésia Cabarrus, celle-ci ne s'appelait plus alors marquise de Frontenay et ne s'appelait pas encore la citoyenne Tallien, la fit sortir de la conciergerie et la produisit dans le monde, où la jeune veuve se fit beaucoup remarquer par son élégance et ses charmes. Malgré de tels souvenirs, Tallien fut en médiocre faveur auprès de Bonaparte. Il n'obtint en Égypte que les fonctions plus que modestes d'administrateur des domaines, puis de conservateur des hypothèques. Toujours fidèle à son ancien goût pour le journalisme, il fonda au pied des pyramides une feuille périodique, la Décade égyptienne. S'étant brouillé avec Ménou, Il dut repartir en 1801 pour la France. Les corsaires anglais le saisirent pendant la traversée. Mais, amené à Londres, il reçut des ovations. Les Tories et les Whigs rivalisèrent pour lui d'égard et de prévenance. Le voyage à Londres fut le dernier écho de sa popularité. Il ne revint à Paris, où l'on oublie si vite, que pour entrer dans une obscurité profonde, et sa femme l'accueillit avec une grande froideur. « Est-ce ma faute ? » écrivait-elle plus tard. « Si M. Tallien est parti pour l'Égypte, quand Soro le retenait à Paris ?» Cette situation aboutit à un divorce. Madame Tallien fit offrir une pension au mari qu'elle quittait. Celui-ci ne pouvait répondre que par un refus à cette étrange proposition. Mais comment vivre ? Le fier républicain n'avait plus de ressources, il dut se faire solliciteur. Heureusement, il était appuyé par M. de Talleyrand, et après de longues démarches, il parvint à se faire donner, lui qui, à l'âge de 25 ans, avait été le président de la Convention, lui qui avait abattu Robespierre, un consulat à Alicante. Peu de temps après son divorce, Madame Tallien épousa le comte de Caraman, qui recueillit plus tard l'héritage et le titre de son oncle Philippe d'Alsace, prince de Chimay. Elle n'oublia pas complètement l'homme dont elle avait porté le nom dans les moments les plus célèbres d'une vie si troublée. Tallien, ensevelissant dans la retraite les dernières années de son existence, reçut plus d'une fois la visite de la princesse de Chimay. Elle le força d'accepter, sinon de l'argent, du moins un asile dans une dépendance de la fameuse chaumière du cours La Reine, qu'on appelait toujours la maison Tallien. L'ancien conventionnel mourut à Paris le 26 novembre 1820. Quelques jours après, on lisait dans le Moniteur « S'il est permis de révéler les secrets d'une auguste bienveillance, aux yeux de laquelle une grande action avait tout réparé, on peut dire que sans les secours qui lui étaient accordés, Tallien serait mort dans un dénuement absolu. » Madame Tallien, en devenant princesse de Chimay, entra dans cette seconde phase de beaucoup d'existences bruyantes qui rachètent par le calme un peu triste de l'âge mûr l'agitation de la jeunesse. Pendant toute la dernière moitié de sa vie, de 1805 à 1835, elle se consacra aux soins de sa famille. Loin de se plaire à reporter sa pensée sur les jours où elle faisait l'envie de tant de femmes et l'admiration de tous les hommes, elle ne cherchait qu'à faire oublier ses triomphes d'autrefois. Ce qu'elle eût désiré avant tout, c'était la considération, la dignité du foyer domestique, une place tranquille et honorée dans la société belge. Mais l'aristocratie de Bruxelles se montrait implacable dans ses préventions contre la femme qui avait porté le nom de Tallien. Le roi Guillaume refusait obstinément de la recevoir à sa cour, et la position du prince de Chimay, qui était chambellan et membre de la première chambre des États généraux, rendait cette exclusion plus blessante encore. Elle cherchait à se consoler de ses injustes dédains par la culture des arts. La demeure hospitalière de Chimay était le rendez-vous d'hommes distingués. Elle y réunissait des littérateurs, des artistes, Isabey, Cherubini, Le Mercier et l'aimable auteur de la muette, M. Aubert, qui disait en parlant de sa contemporaine « Quand elle entrait dans un salon, elle faisait le jour et la nuit, le jour pour elle, la nuit pour les autres. » Cependant, malgré tous ses efforts, elle ne pouvait empêcher les échos d'un passé lointain de retentir autour de son nom. Ce fut pour elle une source de véritable souffrance. Elle écrivait en 1829 à M. Édouard Cabarrus « Je te remercie du fond du cœur, mon ami, de vouloir arrêter la publication des mémoires dont je suis menacé. Non seulement je n'en ai pas écrit, mais je n'en écrirai pas. Je ne voudrais faire à personne le mal que l'on m'a fait, et des lettres adressées dans un temps qui n'est plus, publiées maintenant, me vengerait trop cruellement. J'ai vécu jusqu'à ce jour sans avoir fait répandre une larme, sans avoir éprouvé un sentiment de haine ou le désir de me venger. Je veux mourir tel que j'ai vécu. » Dans ses lettres à un de ses plus fidèles amis, M. de Pougins, elle parlait avec tristesse profonde de quelques pamphlets rétrospectifs dirigés contre elle par des hommes qui voulaient faire acheter leur silence à prix d'argent. Elle lui écrivait le 17 juin 1826 « N'êtes-vous pas un des meilleurs médecins de ce triste cœur, si ulcéré depuis bien des années et si cruellement outragé par d'atroces calomnies ?» Et la fille de Tallien, celle qui porte le nom de Thermidor dans son acte de naissance, aujourd'hui, Madame de Narbonne-Pelay, mère de 5 enfants, quelle douleur elle a dû ressentir. La princesse de Chimay s'exprimait sur elle finement et simplement. « Quel roman que ma vie » écrivait-elle encore à M. de Pougins, Je n'y crois plus. Il y a des jours où je me figure que je regarde jouer une comédie, comme le soir où j'ai vu sur un théâtre du boulevard annoncer M. de Robespierre chez la citoyenne Tallien. Quand j'étais sur la paille de la prison, à 24 heures de l'échafaud, nous pensions rêver aussi, tant la jeunesse nous aveuglait sur l'horrible lendemain. Le lendemain, c'était le 7 Thermidor, le plus beau jour de ma vie, puisque c'est un peu par ma petite main que la guillotine a été renversée. Sa fin fut aussi douce que ses jours avaient été troublés. Entourée de l'affection des siens et des secours de la religion, elle mourut à Chimay le 15 janvier 1835. Quelques instants avant de rendre le dernier soupir, elle réunit ses enfants et ses serviteurs et demanda pardon des fautes de sa jeunesse. Elle avait vécu 60 ans. Dans ce demi-siècle, que d'événements s'étaient accomplis. Combien l'humanité avait souffert. « Ah, mon ami, disait-elle d'une voix entrecoupée à M. Édouard Cabarrus, qu'elle avait appelé à son lit de mort. « Ah, mon ami, quelle vie que la mienne! N'est-ce pas que c'est un rêve ?» Ainsi s'achève Madame Tallien par Humbert de Saint-Amand.